Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio, à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude une consommation modérée et responsable avec un zoom sur le beau vignoble du Languedoc, le porteur d'une cave coopérative, le cellier des Chartreux. On parle également du bar du Bouillon à Paris dans le 6e arrondissement et puis le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Piau et Laure Esperotto. Bonjour mesdames.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Belle comme des cœurs. J'ai pas encore dit Philippe Porbois et dit David Cobol. Oh. Bonjour messieurs.
Mais on s'est fait reprocher d'être trop lent et maintenant on est trop rapide, il faut savoir.
Ouais, c'est le début de la fin, messieurs. Bon, alors pour commencer cette émission, Laure Gasparotto, on parle un petit peu de Rasto avec une jolie histoire, c'est ça ?
En fait, c'était surtout de Jérôme Bressy et pas trop de Rasto. Et alors, il se situe à Rasto, mais est sorti de l'appellation parce que c'est un homme, disons, qu'il est libre et qu'il a voulu se libérer de certaines pressions et garder sa vision et sa quête, parce que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche. C'est un vrai cistercien, le vigneron cistercien comme on l'imagine, qui n'aime pas trop se diriger vers l'extérieur, mais qui reste très centré sur son vignoble, sur lui-même.
Ça a du charme.
Ça a du charme. Alors, il a 15 hectares à Rasto, donc il est sorti de l'appellation en 2010 pour des raisons de cépage, parce qu'il a, pour lui, la diversité des cépages est garant de la pérennité de son vignoble. Contre le réchauffement climatique, certains cépages peuvent mieux réagir que d'autres. Et alors, je vais vous donner les noms de ces cépages parce qu'il y a quand même une somme incroyable. En rouge, c'est Grenache Noir, Mourvèdre, Counoise, Carignan, Terré Noir, Vacarès, Syrah, Muscardin, Cinsault. Rien que ça.
Et tous se plaisent dans la région.
Et tous se plaisent.
Ils sont autorisés à Châteauneuf.
Ce sont tous des cépages autorisés. Et en blanc, grenache gris, clairette, picardant, qui a cépage très fin, picpoule, roussanne, marsanne, vieunier. Et grâce à cette diversité, tous ces matériaux, il produit des vins d'un équilibre très rare. C'est d'une harmonie incroyable. Alors après, il les élève aussi séparément. Hein. Il les élève séparément, puis après, plus tard, il peut élever ses vins jusqu'à 3 ans. Pour l'instant, il n'est pas allé plus loin. Mais il me dit que si un millésime lui imposait, il élèverait ses vins pendant 4 ans. Donc là, il sort complètement de l'appellation. Enfin, il est à l'écoute de son végétal, du produit qu'il fait, et reste complètement en lien avec ce vivant, et plus qu'avec les hommes qui l'entourent. Alors après, ça a son charme, comme vous dites, Alain. En tout cas, il produit 15%, enfin, dans l'appellation Rasto, c'est 15% seulement de cépages secondaires qui sont autorisés. Oui. Donc lui, il est complètement au-delà des clous. Et il a des équilibres aussi avec des degrés qui sont très élevés. Hein. Il est toujours le dernier à vendanger, donc il peut parfois vendanger des cépages à 16 degrés.
À 16 degrés.
À 16 degrés. Mais parce qu'il a plusieurs cépages, il en récolte certains à 11, et parce qu'il estime que 11 ou 12 degrés, c'est le degré de maturité de ce cépage en particulier, par exemple le Cinsault, ou alors des cépages qui vont plus loin, et donc il peut. Mais c'est un extrémiste. Et après, c'est tout le secret dans l'assemblage.
Et le résultat est très bien.
Le résultat, alors là, j'ai goûté, c'est 2016 que vous pouvez commencer à trouver sur le marché en ce moment. Alors, c'est 50 euros la bouteille. Hein.
À 50 euros la bouteille.
C'est 50 euros en blanc ou en rouge.
Ah oui, le moine cistercien, quand même.
Mais alors, pour
plutôt l'argent
il
du temple,
fait
là.
De très, très, très petits rendements. Il est en biodynamie avec des très beaux vignobles qui vont jusqu'à 110 ans. Et donc, ces rendements, alors, 2018, c'est 3 hectos en 2018.
3 hectos, ah bah
3 hectolitres par hectare en 2018, mais parce qu'il a beaucoup perdu, mais sinon il est en moyenne à 15 hectos et litres hectare.
Donc c'est vraiment,
on
aussi,
reste
quoi.
Dans la concentration et ces vins malgré tout ont une fluidité, un raffinement, on n'est pas dans la confiture, on est vraiment dans l'équilibre.
Dans l'élégance. David Cobold ?
Oui, ma question est, cette affaire de baisser les rendements pour moi n'est pas une panacée, nécessairement. Ce qui m'intéresse, surtout dans cette appellation-là qui a tendance à produire des vins où il y a beaucoup d'impression de chaleur, vous dites que c'est très équilibré, c'est frais. Et ça reste frais.
Ça reste frais parce
que... C'est ça l'essentiel.
Ça reste frais parce que son vignoble est très, très vieux. J'ai vu des cépages majestueux. Il y a des cépages majestueux qui...
Mais ce n'est pas parce qu'un cépage est vieux qu'il va produire moins d'alcool.
Alors, mais parce qu'il va jusqu'à 110 ans. Mais parce que c'est élevé en biologie et en biodynamie. Il est certifié en biodynamie depuis 2008. Et en fait, ça lui permet de travailler ses sols et d'aller... Chaque cèpe va chercher la fraîcheur, en fait. Et dans le raisin, il y a la fraîcheur. Et je pense que vraiment, le mode de culture peut assurer cette fraîcheur qu'on retrouve après dans les assemblages.
Le sol, c'est maintenant très critiqué. Il vaut mieux pas les travailler, parce qu'on perd de la matière organique.
Oui, naturelle, on va dire. Ouais. Hélène, vous connaissez les vins dont parle Laure ?
Alors j'ai eu l'occasion de voir les bouteilles, mais il se trouve que le caviste qui les vendait était fermé. Alors du coup j'ai rêvé devant et je ne sais pas.
Vous avez une vie passionnante. Hein.
Mais c'est dingue, vous me posez la question, je vous raconte.
Donc vous êtes économisé 50 euros.
C'est ça, j'ai gagné 50 euros.
Oui, mais vous êtes privé d'une expérience parce que c'est un grain vraiment particulièrement soyeux et ce sont des vins recherchés par les gens qui l'ont déjà goûté.
Oui, parce que
c'est une vraie expérience.
Mais j'allais pas fracasser la vitrine pour ça. 50 euros,
bon, Hélène, c'est bon,
ça
là.
Très cher.
C'est le côté Hélène gilet jaune.
Donc vous conseillez Laure cette rencontre avec cette belle bouteille ?
C'est vraiment une expérience esthétique, oui, que je recommande au moins une fois dans sa vie, oui.
Super, merci beaucoup Laure Gasparotto. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Forbach, président de la Sommellerie française, pour une petite balade dans le Languedoc. Mais avant, si on passait par Anvers.
Exactement. Aujourd'hui, toutes les délégations sont réunies pour une grande semaine, puisque démarre demain le concours du meilleur sommelier du monde 2019. C'est un concours...
En Belgique,
à Anvers. Ce sont des amis belges qui ont eu la charge et le privilège aussi d'organiser cette année le concours. C'est tous les 3 ans. Ça fait 50 ans que ça existe.
1969. Bravo.
Et déjà en Belgique, c'était une raison pour laquelle, effectivement, ce sont les Belges...
Le premier concours était en Belgique.
Exactement. Et c'est Armand Melconian qui était sommelier à la Vol d'Or à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Ouais.
Sommelier français qui a remporté pour la première fois cette compétition. Et il sera présent en fin de semaine, puisqu'il sera là pour la finale qui aura lieu vendredi 15.
Il a quel âge maintenant ?
Il a 85 ans.
Bah, ils l'ont décongelé ce matin. Mais vraiment, c'est...
Il est encore... ne soyez pas moqueur, monsieur Martin, s'il vous plaît. Il est
le
encore en pleine forme.
Bien sûr, la
preuve. Et nous serons tous réunis pour cette grande fête avec une émotion particulière et une pensée, comme on se doute, très affectueuse pour Gérard Basset, qui nous a quittés en janvier de cette année, qui est le premier des meilleurs sommets du monde à disparaître, qui était un personnage dont on a déjà parlé à ce micro, mais voilà, qui va nous marquer et qui va marquer beaucoup de générations de jeunes sommeliers. Donc cette semaine, c'est la fête. 65 candidats, 62 pays représentés, 3 meilleurs sommeliers continentaux.
Bon, on va la gagner, cette Europe, compétition, ou pas, Philippe?
Combien de femmes, Philippe?
De plus en plus. Et il y a au moins... J'ai calculé, on est autour de 30% de femmes dans cette phase finale. Et le candidat français... C'est
une candidate.
C'est un candidat. C'est David Biraud qui travaille au Mandarin Oriental avec Thierry Marx. Et tout. Bien entendu, en tant que président de Sommelier France, je ne peux que l'encourager. On a confiance en lui, franchement. Il a très bien travaillé. Il fera le maximum.
Allez, à partir de demain, il faut être en pleine forme, David. Hein. Voilà. Bon, alors, il y a un direct entre Anvers et Montpellier. Vous l'avez pris. Et vous êtes maintenant, ça y est, dans le sud.
Exactement.
Incroyable.
Je suis dans les grès de Montpellier, qui est une appellation relativement récente à laquelle j'ai contribué d'ailleurs à avoir obtenu cette appellation.
Combien ça a coûté ça
a coûté pas mal de temps, pas mal de sueur et quelques dégustations épiques, mais ça nous a permis de créer cette appellation tout autour de la ville de Montpellier, qui remonte jusqu'à Pic-Saint-Loup, qui est une appellation que l'on évoque souvent parce qu'elle a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et c'est une appellation qui produit que des vins rouges, élaborés à partir de Syrah, Grenache et Mourvèdre, vraiment les cépages traditionnels de la région. Alors ça s'appelle les grès de Montpellier, pour imaginer le sol graiseux. Il y a une unité géologique parfaite. Non, il y a plein de styles de géologie différents, des marnes, des calcaires, des argiles, voire des sables, etc. Finalement, ce qui rend unitaire l'appellation, c'est plutôt le climat, d'influence extrêmement méditerranéenne, on peut s'en douter aussi, et avec un ensoleillement qui est assez équilibré, et c'est vraiment le climat qui a fait qu'on a, on a déterminé cette cohérence, j'allais dire, dans l'appellation. Alors, on y produit des vins rouges, et là aussi, même si le climat est équivalent, l'influence de la géologie, de l'exposition, de l'altitude également, fait qu'on a des vins qui peuvent être relativement différents. Eux, ils parlent de complémentaires, c'est assez joli pour dire qu'effectivement, ça peut être effectivement assez différent. Et on a des vins qui sont en général assez généreux, assez denses, relativement puissants, mais on peut avoir des vins plus tendres, un peu plus légers. Des vins qui sont, pour certains, à boire assez vite,
c'est-à-dire
qu'on a déjà du plaisir. On évoque souvent millésime qui est 2016 en ce moment. C'est juste très
bien là, ouais.
Parce qu'il y a une gourmandise dans ce millésime là. Globalement, on peut commencer les bords à partir de 2-3 ans, mais par contre, ça peut se tenir jusqu'à une dizaine d'années sans aucun problème. Il m'est même arrivé de goûter, pour l'histoire et pour le plaisir aussi,
des 1800
pas jusqu'à là. Mais le premier millésime reconnu en grès de Montpellier, c'était 2002, puisque l'appellation était reconnue en 2003 avec rétroactivité sur la récolte 2002.
Et c'est bien, non ?
Et donc, de temps en temps, on goûte le premier millésime, et il y a encore, franchement, comme on dit, du vin dans la bouteille, et du plaisir au fond du verre.
Formidable.
Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, ce sont des vins dont le gradient de prix est relativement raisonnable. On est entre 10 et 20 euros.
Ça va pour un bon vin.
Même certains un petit peu moins de 10 euros, prix public, ce qui permet d'avoir effectivement des vins intéressants. C'est peut-être d'ailleurs un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire que cette appellation qui est censée hiérarchiser un petit peu plus dans le haut vers le haut, finalement n'a pas peut-être suscité un engouement du marché suffisant pour monter les prix. Pour les vignerons, je parle.
20 euros, Philippe, c'est pas mal déjà, non ?
Oui, mais pour certaines cuvées, c'est un peu marginal, ces 20 euros.
C'est plutôt 10 alors.
C'est plutôt 10 et 15, ouais. Si on veut, pour la majorité. Mais néanmoins, on a de très jolis vins. Ce sont des vins de saison. Là, on est on commence à voir poindre le printemps en termes de climat.
Et on va regarder les jolies jupes de Hélène et puis de l'or.
De produits alimentaires. Donc ça peut aller très bien s'il vous reste encore quelques belles viandes à profiter, quelques gibiers, mais avec des grillades qui arrivent, je pense que ça va être un vrai bonheur. Quelques vignerons rapidement.
Bien sûr.
L'abbaye de Valmagne, parmi les vins des endroits aussi célèbres et très beaux à visiter. Le domaine Clavel, le château Grès-Saint-Paul, château Puech-Haut, Saint-Martin-de-la-Garrigue, Blanville, La Prose, le Mazunovi, sans oublier le château de Langaran,
merci.
Très bien propriétaire à côté de Montpellier.
Beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux. Et puis ensuite, direction le Cellier des Chartreux.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et puis le Vino Quiz, Hélène.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. L'emblème de la maison Bessera de Belfond est-il ? Réponse A, une marinière, symbole de la mode vintage à la française. Réponse B, une couronne de fleurs. Ou réponse C, un renard. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino sur Radio retrouve David Cobold, le seul anglais de l'émission. Et on est très fiers de vous,
jusqu'à
David,
nouvel ordre, oui.
Cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler du cellier des Chartreux. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce sujet, David ?
Alors, plusieurs choses m'ont intéressé. D'abord, je ne sais pas quel est le rapport avec les Chartreux, la Chartreuse.
Un chat.
Laure Gasparotto nous a parlé des moines l'autre jour, donc je me demande s'il y a un lien. Je ne sais pas. C'est une cave coopérative fondée en 1929. Alors, on oublie trop souvent en France que 50% des vins français sont vinifiés par des caves coopératives. On a cité à cette antenne plusieurs fois des caves qu'on estime beaucoup, la Chablisienne par exemple, la Chablis, cave de Plémont dans le Gers, la cave de Thun dans la vallée du Rhône. Le cellier du Chartreux, je ne le connaissais pas. C'est situé dans le sud de la vallée du Rhône, dans la partie gardoise, donc la rive droite. Et par hasard, de temps en temps, je reçois des échantillons, et j'ai reçu des échantillons avec une très jolie, élégante étiquette et co-signée par le célèbre rugbyman barbu Sébastien Chabal. Et en général, quand je vois des trucs comme ça, je m'en méfie un peu.
Oui.
Mais ma conscience professionnelle n'ayant pas...
On déguste quand même.
Je déguste le vin et j'étais très impressionné par la qualité de ces vins. Non seulement l'étiquette était belle, le vin était très bien fait, c'était harmonieux, c'était pas trop lourd, c'était pas trop ostentatoire.
Et le prix était très raisonnable en plus. Bah, c'était moins de 10 euros.
Oui, ça va, c'est très bien.
Et donc, ils ont produit une gamme avec Sébastien Cheval. Et puis, je les ai appelés. J'ai dit, mais est-ce que vous pourriez m'envoyer des échantillons de la gamme normale pour essayer de juger la qualité, ce qu'ils ont fait. Et de plus, récemment, au salon qui a eu lieu à Paris, qui est Wine Paris, je suis allé à leur stand et j'ai rencontré le président, qui est un homme dynamique, charmant, qui s'appelle Christophe Novara, qui est le président de cette cave, qui, à mon avis, a donné une vraie impulsion. C'est pas une grosse cave, il y a 70 vignerons, hein, c'est pas énorme. Ils ont absorbé une petite cave à côté.
Donc, ce sont des viticulteurs qui apportent du raisin, c'est ça ?
Oui, la structure d'une cave coopérative. Il faut quand même rappeler l'histoire. C'était fait pendant les périodes difficiles, les années 20, les années 30, où la crise économique a fait que les vignerons, les négociants n'achetaient plus le raisin ou le vin. Donc, pour survivre, ils se sont mis ensemble et créé des caves coopératives. Ça a fait la survie d'énormément de vignerons. Donc, c'est une structure hyper importante en France. Cette petite cave, Célie et les Chartreux, j'ai beaucoup apprécié leur vin. Et quand on regarde, je vous convie d'aller voir leur site internet, c'est fait d'une élégance. J'ai demandé à Christophe Novara qui a fait leur site, parce que c'est assez remarquable pour une cave coopérative, qu'en général c'est un peu ringard leur site internet. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très beau, c'est informatif. Et il y a des belles photos, les étiquettes sont bien. Il a dit, mais j'ai pris quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas du monde du vin. Donc, il a un regard à la fois interne et externe. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, j'étais impressionné par leur vin. Et la première chose que j'ai goûté, c'était un Viognier qui est un vin de Pays du Gard. Je crois que c'est le plus...
En monocépage, hein, 100%.
Monocépage, donc cépage blanc. Et on connaît le Viognier parce que c'est le monocépage de Condrieu et de Château-Grillé. Mais il a été beaucoup planté ces dernières années dans le sud, Languedoc et sud du Rhône. Et je n'ai jamais goûté un Viognier du sud avec autant de finesse et d'élégance.
D'accord.
C'est vraiment délicat. En général, les Viogniers, c'est lourd, c'est un peu pâteux. Ouais, enfin, ça peut verser. Et là, ils l'ont récolté assez tôt, mais ce n'est pas vert du tout. Et ça vaut 7 euros. Ouais, donc c'est un vin absolument délicieux pour 7 euros. Et c'est assez rare pour être souligné. Après, toute leur gamme de rouge, je n'ai pas goûté tout. En plus, ils ont des noms assez créatifs. Par exemple, leur rosé s'appelle « La nuit, tous les chats sont gris ». Je trouve qu'il y a un esprit créatif.
C'est ce que disent tous les célibataires à partir de 2h du matin. C'est ça, David ?
Alors, c'est OK si vous aimez les rosés. Hein. Moi, je ne suis pas un fanatique de rosé. Ça, c'est très correct. Par contre, les rouges sont vraiment très bons. J'ai donné des notes de 15 sur 20 à tous les rouges, que ce soit le Clan des Loups, Côte-du-Rhône, Village Saint-Gervais, le Chevalier d'Anthem, qui est un Côte-du-Rhône. Ils font un Lirac aussi à 9 euros. Donc, tout ça, c'est moins de 10 euros. C'est vraiment d'un rapport
qualité. Et le deal avec Chabal, c'était quoi ?
Alors, deal avec Chabal, apparemment, Chabal a été présenté par quelqu'un qui connaissait la cave et qui connaissait Sébastien Chabal. Et puis, ils se sont bien entendus. Je l'ai vu des photos de lui se promenant dans les vignes. Apparemment, il s'est vraiment entiché de ça.
Oui.
Je n'ai pas pu parler avec lui, mais peut-être ça viendra un jour. Mais je crois qu'il a, d'après le président de la cave, il y a une vraie affinité entre eux. Et donc, ils l'ont fait. Parce que Chabal aime ce qu'ils font et aime être impliqué, il s'est impliqué à toutes les étapes du vin.
On l'invitera dans l'émission Une Vidéo pour nous parler un peu de sa passion pour le vin.
Ça sera bien, je pense qu'il y a beaucoup d'autres rugbymen ou anciens rugbymen qui sont impliqués. Yannick Josien vient de sortir son premier vin, par exemple.
C'est très bien, grand monsieur également. Merci beaucoup David Cobol. Une Vidéo sur Radio retrouve maintenant Hélène Pio, on se retrouve une nouvelle fois, pour nous présenter Benjamin. C'est qui Benjamin ?
C'est Benjamin Butner, le cofondateur du Bar du Bouillon, le patron du Bar du Bouillon. Bouillon à Paris. Alors, le bar du bouillon, on ne boit pas de bouillon, a priori, hein, on boit du vin, bonne nouvelle. C'est juste à côté du Bouillon Racine, une institution du quartier de l'Odéon. Et ça a ouvert il y a quelques mois. Le Bouillon Racine, ça a 100 ans. Vous avez quoi, 6 mois ?
Exactement, bonjour à tous. Oui, alors c'est bien de parler aussi du Bouillon Racine pour présenter le bar du bouillon, parce que ça s'inscrit dans un grand ensemble. Il y a deux
ans. Mais c'est la même maison ?
C'est la même maison, même propriétaire. D'accord. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, au sein du Bouillon Racine, il y a eu une réorientation globale de la sélection des vins. Il y avait une carte des vins qui était bien, correcte, classique, faite de grandes marques, de vins qui fonctionnaient. Mais le propriétaire des lieux s'amusait assez peu avec sa carte des vins et, dans cette démarche, fait appel à moi.
Donc il y a. Est-ce que vous êtes quoi, cette sommelier?
Alors, de formation sommelier, voilà, tout à fait. J'ai fait mes études à Dijon.
Vous avez tous les bouquins de Philippe Horvath chez vous là sur la table de nuit, juste à côté de la Bible.
Exactement. Un petit passage dans les vignes. J'ai travaillé dans le négoce bordelais. J'ai travaillé comme agent sur le marché parisien. Et à l'époque où j'étais agent, j'ai rencontré Monsieur Morand, propriétaire du Bouillon Racine, qui me dit j'aurais bien aimé réorienter un petit peu le Bouillon, qui est une institution, qui est une brasserie qui fonctionne très bien, mais se faire un peu plus plaisir au niveau vin. Donc, il y a 2 ans, on commence à réécrire un petit peu la carte des vins, on commence à affiner un petit peu la cuisine, et la finalité de tout ce processus, c'est la création au sein du Bouillon Racine d'un bar à vin dans une 50aine de mètres carrés. On refait entièrement le décor Art Nouveau qui rappelle bien sûr le grand frère, le Bouillon Racine.
En plus confortable, hein, si je peux me permettre.
Ouais, c'est vrai. On l'a fait un peu plus cosy, un peu plus calme, un peu moins brillant, évidemment. On a une 30aine de places contre 150 places à côté. Donc, évidemment, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même cadre. Mais on sent qu'il y a une filiation déjà par la cuisine, parce que la cuisine communique et que les deux sont complètement liés. Mais bien sûr, une sélection de vins beaucoup plus large qu'au Bouillon Racine.
Alors, quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez? Faites-vous rêver.
On atteint aujourd'hui environ 250 références à la carte, sachant qu'on a une particularité qui est pas vraiment une nouveauté, mais qui est pour nous quelque chose de très important. La carte des vins est entièrement écrite par vigneron, par région et par vigneron. C'est-à-dire qu'au sein de la Bourgogne, vous avez un domaine, par exemple, pris à Chablis, qui est le domaine Pinson avec lequel on travaille. Mmh. On va mettre le vigneron et l'ensemble des vins que nous faisons du domaine, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas classé par zone géographique, mais bien par vigneron, pour mettre en avant le travail des vignerons. Parce que nous ne faisons pas de vin. On est juste là pour échanger avec nos clients sur le travail d'un vigneron.
Laure ?
Alors moi, j'ai découvert le bar du Bouillon la semaine dernière. Et justement,
alors,
par
vous avez été malade ou pas?
Alors là, non, je vais y retourner parce que j'ai adoré la carte des vins. Vraiment, bravo pour le choix.
Merci.
Parce que d'abord, on peut prendre le vin, un Côte du Marmandais des Lions d'Arros, avec lequel vous avez travaillé en tant qu'agent. Un blanc vraiment à un prix très raisonnable. Je ne sais plus à quel prix
on
le verre.
Sur Coucou Blanc, on est aux alentours d'une dizaine d'euros le verre.
Voilà. 10 euros le verre. Aussi
mais par ailleurs,
c'est le meilleur producteur du Marmandais.
Voilà.
Oui, monsieur très gentil.
Et par ailleurs, alors, on peut se faire plaisir à tout niveau, parce que vous avez aussi mis à disposition votre cave particulière.
Donc,
on peut goûter des vins qui sont des millésimes anciens, notamment un Smith Olafite 2000, alors dans les 200 euros la bouteille, je crois.
On a
des vieux Bordeaux, parce que vous m'avez raconté que vous avez découvert, enfin, que votre première émotion de vin, c'est par les vieux Bordeaux.
Bien sûr,
l'appellation
Aubryon,
qui vieillit.
Plus précisément, moi je suis devenu sommelier à cause d'un Aubryon 89.
Vous offrez aujourd'hui la possibilité de cette expérience à vos clients avec justement des vieux Bordeaux, mais même des années 50, 60, 70.
Et qui sont vendus uniquement à la bouteille, je suppose.
Et à des prix extrêmement corrects.
Alors,
on a un Lafite, je ne sais plus quel millésime, à 670 euros, quelque chose comme ça.
C'est correct pour du Lafite.
Oui, voilà,
on va recadrer un petit peu. Pour l'apéro ce soir, je ne suis pas sûre.
Le bouillon, c'est raffiné, parce qu'au départ, l'idée du bouillon, c'était quand même la soupe populaire.
Bien sûr. Alors, sachant une chose.
Donc, c'est pour dire que c'est très écarté.
Hélène ?
Alors, effectivement, il y a des choix très marqués. Et notamment, vous avez fait le choix d'avoir peu de domaines finalement, mais quasiment tous les vins du domaine en question.
Ouais, c'est bien,
alors c'est formidable,
c'est
pour effectivement se faire une belle idée du travail d'un vigneron, mais ça peut surprendre parce que comme ça à première vue, on a l'impression qu'il y a un seul domaine du Jura, un seul d'Alsace, un seul de Corse, un seul de Provence, alors 2 en Beaujolais, c'est notable, mais on se dit même si à chaque fois on a 4 ou 5 vins d'un même producteur, c'est un peu réducteur quand même, non?
Ça vous perturbe, Hélène?
Un peu quand même.
Alors c'est un choix qui est volontaire. Alors c'est vrai qu'à l'instant T, ça peut évidemment paraître réducteur. L'idée, c'est aussi de prendre le temps de mettre en avant et d'échanger, de transmettre de l'information. Aujourd'hui, en Jura, on travaille avec Stéphane Tissot, qui est une des grandes références, bien sûr, du Jura, de la biodynamie, qui fait des vins avec
magnifique.
Très peu de soufre, absolument magnifique. Une fois qu'on aura bien implanté les vins de chez Stéphane, sachant que ce sont des domaines qu'on assure à location, ce sera le bon moment de faire rentrer autre chose et d'échanger sur un autre vigneron. On laisse le temps au temps, on laisse le temps à nos clients. client de découvrir, parce que découvrir une cuvée chez un vigneron, c'est pas suffisant souvent. Une gamme, un vigneron, il construit son offre commerciale autour d'une gamme. Donc on va commencer avec des prix raisonnables, qui est la découverte du domaine.
Non, mais la démarche est bonne. David, une dernière question peut-être ?
Non, mais je trouve la démarche très intéressante, et il ne faut pas oublier que le vin est fait par le vigneron et pas par l'appellation.
C'était la chose centrale. C'est-à-dire que nous choisissons nos vins en fonction des vignerons, déjà par affinité humaine, des gens qu'on aime bien, des gens qui ont la bonne démarche, qui commercialement peuvent ne pas s'en...
Benjamin, pour terminer, vous nous rappelez l'adresse exactement pour vous retrouver avec votre grand sourire et vos bons plans.
Alors, aux 3 rue Racine, dans le 6e arrondissement, en lieu et place du Bouillon Racine.
Et Hélène, vous y allez quand vous ?
J'y vais quand je veux, parce que c'est ouvert 7 jours sur 7.
Ben voilà.
C'est ouvert tous les jours, de midi à 15h et de 18h à minuit.
Bon, vous allez repérer, Benjamin, elle sera là matin, midi et soir. Merci beaucoup, Benjamin et Hélène. Merci également à vous, Laure Gasparotto, David Cobold et Philippe Forbrach. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, ça y est, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.